Le psaume 24e, vous l'avez trouvé ? Je prends mon temps pour que vous ayez le temps de le trouver, de le lire avec moi. Psaume de David. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qui l'habite, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction d'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, la face de Jacob. Pause. C'est-à-dire que là, théoriquement, il devrait y avoir les musiciens qui jouent un morceau de musique pendant qu'on réfléchit. Alors, les musiciens ne sont pas là, mais vous réfléchissez. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel ? Qui peut rentrer dans sa présence? Qui peut parler à Dieu? Une interrogation. Oh, je ne vous pose pas la question, vous allez tous me répondre « nous ». Je me pose la question. Est-ce de par ma nature? De par mes droits? Ou est-ce qu'il y a là un privilège que Dieu m'accorde dans une dimension de faveur que l'on appelle la grâce? Je voudrais ce matin qu'on puisse mesurer la dimension de grâce qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Deuxième partie du psaume, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen, que son nom soit béni. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait un rendez-vous avec son peuple dans un lieu qu'il appelait la tente du rendez-vous ou la tente d'assignation, assignée à, ou que l'on appelle aussi tabernacle. Et la présence de Dieu était matérialisée par un coffre, l'arche de l'Alliance, qui faisait en longueur 1,15 m. Or, je sais qu'un mètre, ça fait ça. Donc, 1,15 m, ça fait ça. Je ne vous demande pas de le faire par respect pour votre voisin. 70 cm de large et 70 cm de haut. C'est pas énorme. Et dans ce coffre, il y avait témoignage écrit sur deux tables de pierre. Et Dieu, d'une manière symbolique, révélait sa présence au travers de ce coffre, de cette arche, afin que le peuple puisse, d'une manière visuelle, essayer de comprendre l'importance de la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu se révélait, que ce soit dans une colonne de nuée, que ce soit la nuit par sa lumière, il y avait une crainte, la crainte de la présence de Dieu. L'arche allait devant, elle s'arrêtera au milieu du Jourdain. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire de l'accès et de la marche vers la terre promise. On sait que dans la terre promise, l'arche fera le tour de Jéricho. Et vous savez combien de fois ça a tourné autour de Jéricho ? Combien de fois ? Eh non, 13. 6 et 7 le dernier jour. Vous étiez déjà fatigué de tourner là. Mais cette arche va connaître des moments difficiles. Elle restera à Silo pendant que David est dans la cité. Et là déjà, il y a comme une séparation entre le lieu de révélation et le lieu d'habitation. Et je voudrais ce matin que nous parlions de la présence de Dieu, qui n'est pas ici dans le lieu d'adoration, mais qui est aussi et surtout dans le lieu de relation, dans notre cœur et dans notre vie. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Vous avez le droit. Et le Saint-Esprit nous révèle la présence du Seigneur. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un décalage entre le lieu de l'adoration et le lieu d'habitation. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Or, dans ce décalage, il y a eu le rituel qui était mené, mais le rituel peut nous amener à nous repérer sur des choses visibles, la Sainte Cène, et en oublier la présence de Dieu. Le rituel peut nous amener à communier, parce que nous mangeons le pain et que nous buvons le vin, mais à ne plus se réconcilier avec le Père et ne plus se réconcilier avec son frère. Et nous sommes dans un rituel religieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Je ne veux pas ce matin donner pas même l'ombre d'une morale, mais je voudrais que nous nous laissions interpeller au plus profond de nous-mêmes sur le danger du décalage qu'il y a entre ce que nous avons l'habitude de faire et la réalité de la présence du Seigneur. Il y a ce cantique que nous chantons, « J'ai soif de ta présence. Je ne suis pas digne de te recevoir. » Et la clé, c'est que ta grâce m'en donne le pouvoir. Alors, il va y avoir avec Israël un combat, comme on peut avoir des combats dans notre vie, et il faut parfois que les combats surgissent pour que nous prenions conscience de l'importance de la présence de Dieu. Difficultés, problèmes, épreuves. Et là, les Philistins sont toujours là. On croit que David les a anéantis une fois pour toutes, mais non, ils sont toujours là. Et jusqu'au triomphe final du Seigneur, l'ennemi est toujours là. Et si nous ne veillons pas, il nous ligote, il nous enveloppe si facilement, dit le texte aux Hébreux. En sorte que, au fond de nous-mêmes, nous aimons le Seigneur, mais on peut se faire piéger. C'est ainsi que les Philistins ont remporté une victoire sur le peuple d'Israël. Ah, on ne comprend pas. Et d'un seul coup, il y a quelques-uns qui ont dit « Ah, ça y est, ramenons le rituel, ramenons l'arche !» Et ils ont ramené le rituel. Non seulement ils ont pris une deuxième défaite, mais ils se sont fait, je ne vais pas dire le mot quand même, prendre l'arche. Et quand j'entendais tout à l'heure, vous savez que ça peut être la présence du Seigneur un sujet de joie, mais un sujet d'effroi, je peux vous dire que pour les Philistins, ça a été un sujet d'effroi. Vous relirez le texte, et Dagon, il n'était pas content, Dagon, hein, même qu'il a piqué un coup de nez par terre, et il s'en est cassé la tête. Pourquoi je dis cela? Parce que je crois que le Seigneur ne cherche pas à nous faire peur, mais à nous donner la mesure de sa présence. Et c'est ce que je voudrais souligner ce matin, parce que nous avons besoin de cette fraîcheur, que ça fait du bien quand le Seigneur est là. Quand je traverse même la vallée de l'ombre de la difficulté, je ne crains aucun mal, non pas. Et faites le parallèle avec la rencontre de David et Goliath. Non pas parce que je suis capable de terrasser l'ours, le lion, je suis fort. Je connais des textes, des formules. Mais je ne crains aucun mal parce que tu es là. Et quelles que soient nos forces, nos qualités et notre ancienneté, nous avons toujours besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence. Et c'est ce que je veux simplement souligner ce matin. Vous connaissez aussi comment ils ont essayé de récupérer l'arche, où chacun a voulu donner un coup de main. Eh oui. Ousa osa toucher. Conclusion, poum. Je ne parlerai pas des fils du sacrificateur et du sacrificateur lui-même de l'époque, Élie, et les drames de la légèreté, les drames de la négligence, de l'impureté, de la déchéance. Je ne veux pas en parler. Je ferme la parenthèse. Mais on en mesure les conséquences. Mesure. Seigneur, je veux mesurer toute la grandeur de ta présence. 50 ans, l'arche a été absent parmi le peuple. 50 ans, pas une paille, hein. Et ils ont continué de chanter des cantiques, de louer le Seigneur. Et je dis, quand les rituels peuvent prendre le pas, on peut oublier l'importance de sa présence dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, je veux bien revenir sur le texte que nous avons lu ensemble, parce que je crois que c'est important. Le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas, vous connaissez le texte, vous pouvez m'aider parce que je commence à vieillir, vous savez, et puis à force de travailler parmi les malades atteints de la maladie, à vous vous en rappeler. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosé, transformé par le renouvellement de votre entendement ou de votre intelligence, selon second, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il rajoute, revêtez-vous de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et certains ont dit, ah mais Dieu m'a donné une petite. Non. Selon la part que Dieu a donnée dans son œuvre, en fonction de la foi que nous mettons en action pour entrer dans la promesse de Dieu. C'est tout à fait différent. Et Dieu voudrait que nous puissions nous impliquer non seulement dans notre relation, mais dans notre service avec Dieu. Nous ne sommes pas des consommateurs de Dieu, mais des fils et des filles de Dieu et des serviteurs dans son œuvre. Et là, typiquement, tout le monde devrait dire « Amen ». Mais pourquoi vous le dites? Je ne veux pas vous obliger à le dire. La mesure de la foi. Cette mesure, j'aimerais lire un petit coup d'œil dans l'évangile de Luc. Un petit coup d'œil. On a le temps, on partage ensemble. Hein. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, verset 36. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Comment le dire sans le dire tout en le disant? On n'apprend pas ça forcément. Ne m'en veuillez pas, hein. Mais on n'apprend pas ça forcément dans les écoles bibliques. On peut apprendre une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, mais la notion de foi, la notion de miséricorde, c'est quelque chose qui se construit dans la vie et dans la relation avec Dieu. Et la présence de Dieu doit nous amener à un épanouissement dans ce domaine. Le fardeau pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont seuls, non seulement dans la période de fin d'année, mais tout au fil de l'année. Quand je me suis lancé dans l'aventure de nos aînés, de nos vieillards, dans le sens noble du mot, certains ont dit « mais il perd son ministère ». J'ai toujours eu à cœur que ma foi ne se limite pas à une simple connaissance ou à une simple prédication, mais la réalité d'une action qui doit être liée à l'Église. Confesser, prêcher et concrétiser sa foi à l'égard de son prochain, quelle dimension extraordinaire. Soyez miséricordieux comme Dieu. C'est-à-dire que j'ai besoin de ta présence, non seulement dans ma vie personnelle, mais dans l'exercice du fruit qui doit découler de ta présence. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. ça doit se voir, ça doit se traduire. Et ça parle parfois plus que nos paroles. Vous ne l'aviez pas remarqué ? Moi, il y a un texte que je n'ai encore pas compris. Il faut que quelqu'un vienne m'aider. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent bonne nouvelle. Moi, j'aurais dit qu'ils sont belles les langues. Ma manière de marcher, ma manière de vivre, la réalité, la cohérence entre ce que je dis, ce que je vis, c'est cela mon témoignage. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et là, on voit, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ça ne concerne pas les chrétiens, entre eux. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Amen. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit récemment, ça fait 22 ans que je lui en veux. Faut avoir la qualité de la persévérance dans le mauvais sens. Hein. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout. Il a retenu la première partie du verset. Hein. J'étais rassuré, il y en a un autre qui m'a dit, peut-être 2 jours après, ça fait 10 ans que je lui en veux. C'était l'autre. Mais c'était plus court, donc il était mieux. Verset 38. « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Là, voilà la mesure de grâce. Quelle est la mesure de ma miséricorde ? Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. J'ai toujours travaillé. J'étais enfant, j'étais ado, j'ai toujours travaillé pendant mes vacances. D'autres aussi. Hein. N'ayant pas de maison, n'ayant pas de famille, mes vacances, je travaillais. Et je travaillais chez un grainetier, et il y avait une espèce de bol en étain qu'on appelait des mesures. Peut-être certains sont... Oui, tout est empaqueté maintenant à l'avance. D'ailleurs, comme ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et cette mesure, je remplissais de son ou de millet des graines. Hein. Puis selon le client qui était devant moi, je tassais, bien bombé, et je servais. Je me faisais tirer les oreilles, souvent. Puis si c'était un client que j'aimais pas, je versais doucement, que ça soit léger, bombé, et hop, je coupais rase. Là, la dose. Vous serez mesuré avec la mesure dont vous mesurez. Est-ce que votre cœur déborde de grâce ? Il y en a 4. Alléluia. Seigneur, je voudrais que ta présence dans ma vie soit une présence qui soit non pas des détails, des moments, des morceaux que j'ai au distributeur. J'ai fait une pièce de prière et puis j'ai une réponse. Merci Seigneur, au revoir la semaine prochaine. Mais j'aimerais que tu me parles de plénitude. Parce que ça, c'est ta mesure. Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Seigneur, je voudrais cette mesure. Quand Dieu a parlé à Salomon... Pour la construction du temple, Salomon lui a dit, mais Éternel, comment peux-tu habiter une maison faite de mains d'hommes ? Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie de mes mains. Alors il a fait cette prière. Éternel, que tes yeux soient nuit et jour sur cette maison. Et Dieu lui a répondu, lui a dit, j'exauce ta prière. Je sanctifie cette maison. Purification. Pour y mettre à jamais mon nom, le nom de Jésus qui nous introduit. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Le regard et l'amour. L'attention et l'amour. Et non seulement Dieu lui dit qu'il a les yeux, mais il lui dit en plus, parce que Je veux habiter dans l'obscurité. Dieu est conscient de notre petitesse, de nos faiblesses, de nos lacunes. C'est pour cela qu'il veut remplir notre vie de sa présence lumineuse. Amen. Amen. Quel est l'éclairage de mon cœur, de notre cœur ce matin, si sa présence est là comme une source de bienfaits? Alors mon cœur est illuminé de sa présence. Seigneur, tu t'appelles Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et c'est pour cela qu'on en arrive à la deuxième partie de ce psaume où il est question de porte. Et j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre cette dimension. Tout d'abord, on arrive à Noël. Hein. C'est Isaïe qui dira un jour, « Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, oh, ce ne sont pas les cieux qui ont été déchirés, c'est sa propre vie. Il s'est dépouillé des vêtements royaux, il est venu. Et Noël, c'est bien gentil pour la crèche, c'est bien gentil pour le sapin, et donner un air de fête. Mais que ce soit le moment de parler avec vos enfants, vos petits-enfants et les enfants de ceux qui vous entourent. Ne réduisez pas Jésus à cette dimension. Mais dites à ceux qui vous entourent, regardez, il est grand. Lui-même a étendu les bras sur la croix pour vous donner toute la dimension d'amour. Et alors qu'on lui crachait en visage, qu'on le maltraitait, lui, il parlait de pardon, de réconciliation. Donnez une dimension. Seigneur, je veux donner cette dimension. C'est depuis sa naissance, jusqu'à sa mort, sa résurrection, son ascension. Il est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait ce matin, chaque jour? Qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour toi. Non pas cette dimension de prière. Mais il parle de plénitude par son esprit, afin que non seulement pour notre vie, mais pour ceux qui nous entourent, nos cœurs débordent. Il parle de fruits, de fleuves qui débordent. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et des fleuves d'eau vive vont déborder sur les autres. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa grâce. Une porte. Si vous reprenez les évangiles, des portes qui s'ouvrent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça dépend pour quoi faire. Quand Jésus est entré dans le temple, les portes se sont ouvertes, mais c'était pour sortir et les bœufs, et les vendeurs, et les religieux. Ça a fait du ménage. Oui ou non? De temps en temps, il le faut. Mais regardez. Il y avait à la porte du temple des aveugles et des boiteux. Et David, un jour, à cause des Jébusiens qui voulaient l'empêcher d'entrer dans la cité, avait dit « Jamais plus l'aveugle et le boiteux n'entreront dans le temple. » Et c'est devenu comme une loi, comme un principe. Et ce qui est curieux, c'est que Jésus, là, dans le temple, la première chose qu'il fait, c'est de guérir les aveugles et les boiteux. Ils vont rentrer dans le temple. Regardez le premier miracle que Pierre fait quand il va monter au temple, le boiteux, qui va rentrer aussi dans le temple, c'est-à-dire ce qui est impossible, ce que les principes, dans leur rigueur, nous interdisent, lui, il est capable de le faire. Ce que ma vie, parfois, m'impose en disant, je ne peux pas, je ne pourrai pas, je n'y arriverai jamais. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu crois, tu vas voir sa gloire de Dieu, tu vas voir la victoire dans ta vie. C'est la mesure de sa grâce, de sa bénédiction. Et lorsqu'il meurt sur la croix, ce n'est pas une simple porte qui s'ouvre, c'est le voile du temple qui s'ouvre, qui se déchire. L'Épître aux Hébreux nous disant, nous laissant un libre accès en sa présence au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa mort. Seigneur, c'est cela que tu veux me faire sentir. Un effet de ta grâce. Non pas pour que je chante des cantiques simplement, mais que je rentre dans ta présence, Seigneur, pour que je sois au bénéfice de cette grâce. qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut rentrer dans sa présence? Oh, il ne s'agit pas de penser que chaque dimanche vous entendez de belles prédications avec de bons prédicateurs, ce que je crois. Le Seigneur dira un jour à l'église de Laodicée, « Je sais que tu entends ma voix. » Il n'y a pas dit tous les dimanches, mais « Je sais que tu entends ma voix. » Seulement, je suis toujours derrière la porte. Et vous pouvez dire, « Ah, qu'est-ce que c'était bien ce matin, le Seigneur nous a parlé. » Oui. Et alors, qu'est-ce qui a changé? Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et le Seigneur ne fera pas de forcing. Et quand il dit, « Porte, élevez-vous, linteaux. » Les linteaux sont parfois si bas que je ne peux plus laisser le Seigneur rentrer. Ma vie est étriquée. David l'a compris parce que plusieurs fois, il a dit, « Seigneur, tu élargis le chemin sous mes pas. Et parce que tu élargis le chemin, je deviens grand par ta bonté. Et je ne peux grandir que si j'ouvre les portes de mon cœur. Il y a des choses à faire, peut-être des choses à régler, des choses à pardonner qui sont là dans le sous-sol de notre vie. Et nous les avons entassées en pensant que le temps allait les faire oublier. Mais le temps n'efface jamais les fautes. Seule la repentance, seule la demande de pardon, la réconciliation nous amène à une victoire. Et je dis souvent que le pardon, c'est le détonateur de la vie. Et vous savez, quand l'apôtre dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, dépêchez-vous parce que l'hiver, les jours sont plus courts. Donc il faut régler vos comptes avant que la nuit ne tombe. Non, là j'ironise. Hein. Seigneur, je peux m'habituer à entendre ta voix. Je peux être dans le rituel. Mais quelle est la mesure de ta présence? Il y a un texte que j'aime bien, il y a un livre que j'aime bien, c'est le livre des Cantiques des Cantiques. Parce que quand j'étais plus jeune, on m'interdisait de le lire. Donc je l'ai lu. Et il y a ce rapport entre le bien-aimé et la bien-aimée, le fiancé, la fiancée, l'époux et l'épouse, l'Église et notre Seigneur. Amen. Nous l'aimons. 4. Et on dit Amen. Et là, il est question à un moment donné que l'épouse était fatiguée. Et puis, elle était rentrée chez elle. Et puis, elle avait pris sa douche. Elle avait rangé ses affaires. Et puis, le fiancé était à la porte. « Je suis là. » Amen. En plus, il lui dit, « Je suis là, ma sœur. » Alléluia. « Ma bien-aimée. Hmm. »« Ma colombe. Hmm. » Ma parfaite, oh là, t'en fais un peu beaucoup là. Mais c'est ainsi que le bien-aimé lui parlait. Oui, hein, vous êtes témoin? Oui, oui, notez cela parce que... Mais elle restait dans ce bain, alléluia. Le Seigneur est bon. Eh oui, mais il est à la porte. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et quelque chose qui m'interpelle. Le bien-aimé lui dit, tu sais, je suis dehors. Et il y a les gouttes de rosée qui tombent, les gouttes de la nuit qui tombent. Et j'ai l'impression qu'on se trouve là dans la situation de Gethsémané. Et la pluie ruisselle, les gouttes de la nuit qui coulent, les gouttes de myrrhe, appelées les gouttes de sang de cet arbrisseau qui donnait la myrrhe. Et à un moment donné, le bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et il a posé sa main sur le verrou, et le verrou a commencé à dégoutter de la myrrhe. Mais il ne l'a pas ouvert, parce qu'il ne force pas la porte. Et quand la bien-aimée s'est levée, il était parti, mais elle a senti sur le verrou, les gouttes de myrrhe. Et le Seigneur voudrait te dire que ta porte, elle est bloquée. Tu connais le Seigneur, ça fait même des années. Seulement la porte, elle est bloquée. Et sa présence n'est pas réelle et effective. Pourtant, sur le verrou, il y a les gouttes de sang, le prix qu'il a payé pour te délivrer. Celui qui t'aime voudrait te dire que la plus belle des victoires, ce n'est pas sur ce que tu sais de lui, mais c'est sa présence, la mesure de sa présence. Porte élevée, vous linteau. Vous imaginez un instant l'arche qui faisait 1m15, 70, 70, et qui arrive devant cette porte de Jérusalem, la cité de David. Et David dit, je veux que la présence de Dieu vienne dans ma ville. Je veux que la présence de Dieu soit dans ma ville. Et pour ceux qui sont allés à Jérusalem, ils savent que les portes de la ville ne font pas 1m15 de large. Mais 2m50, 3m, même plus, et en hauteur, je ne vous dis pas. Donc le raisonnement logique, il faut agrandir les portes. On peut s'arranger, il va rentrer. Mais David dit non. C'est pas vos mesures à vous qui m'importent. Moi, mes portes peuvent faire 3 mètres, 6 mètres de haut. Et l'arche peut faire que 70 de largeur et de hauteur. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le symbole, c'est une chose, mais la réalité en est une autre. Dieu a besoin de beaucoup plus d'espace que ce que vous avez, vous, limité, que vous avez calculé. Je ferai ça, pour ne pas parler parfois même du chantage que l'on fait avec lui. Si tu fais ça, je ferai ça. Seigneur, je veux me joindre à tous ceux qui acclamaient l'arche qui revenait dans la cité. Et je veux dire, linteau, élevez-vous, porte, élargissez-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire, mais qui est ce roi de gloire? C'est celui qui est vainqueur. C'est celui qui a vaincu la mort. C'est celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est celui qui a transformé un Pierre qui croyait en lui, qui pouvait dire « j'irai jusqu'au bout », mais qui a flanché devant une servante. Ce n'est pas notre bonne volonté qui est la mesure. Alors il a fallu que le Saint-Esprit saisisse Pierre. Et vous savez quelle assurance, d'ailleurs c'est le mot qu'on retrouve après dans le livre des Actes des Apôtres, il avait avec assurance, il parlait avec assurance, il tenait tête, « Seigneur, je voudrais que tu élargisses l'espace de mon cœur. Porte élevée, vous linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. » Je vais terminer. Je suis à 35. Je vais terminer parce que je pense que c'est cette pensée que je voudrais que vous gardiez sur vos cœurs. Ma porte est trop souvent trop étroite. Alors que le Seigneur voudrait faire des choses extraordinaires. Et la mesure de foi qui m'est impartie est loin de ce que le Seigneur voudrait faire dans ma vie et faire avec ma vie pour son œuvre. Seigneur, je voudrais que tu manifestes ta gloire et que nous utilises comme tu veux, comme tu veux. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui qui vit des drames physiques, moraux, mais de misères qui vont grandir autour de nous. Mais je crois aussi que viennent des temps de rafraîchissement. Je crois que viennent des temps où le Seigneur va avoir besoin des siens pour parler à ceux qui nous entourent. Il y a des messagers qui doivent se lever pour sa cause. Le Seigneur a besoin de nous. Vous le croyez? Alors, si vous le croyez, il va vous dire, comme il a dit à Pierre, sors de ta barque. Je ne sais pas si vous avez essayé un jour de sortir de la barque, cap, chiche, quel que soit le mot que vous utilisez, tous ceux qui ont essayé, il y en a même qui ont jeûné plusieurs jours avant de le faire. Et ça fait plouf. Mais là, il y a une différence, c'est que le Seigneur lui a dit « Viens ». Le Seigneur a une parole pour nous. Et une parole qui peut nous amener à surmonter toutes les tempêtes, à surmonter les difficultés, à surmonter nos craintes et nos timidités. Je crois que le Seigneur veut triompher. Et je voudrais terminer cette réflexion de la mesure de la présence du Seigneur et de la mesure de notre service. Comment nous mesurons notre disponibilité pour lui. Avec cette parabole que vous connaissez bien, la parabole des 10 vierges. Oui ? Eh oui. Le drame de ces 10 vierges, allez, vous allez me dire qu'il y en a 5 quand même qui s'en sont pas mal sortis. C'est que autrefois, quand il y avait des mariages, c'est différent d'aujourd'hui. Vous allez me dire oui, oui. Je ne rentrerai pas dans ce débat, quoique il faut en parler. Aujourd'hui, quand il y a un mariage, tout le monde regarde la mariée. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Puis il y a le pauvre gars à côté, lui. Mais à l'époque, les jeunes filles se mettaient à les portes de la maison du maître. Et le rôle des jeunes filles, ce n'était pas de s'éclairer, mais c'était d'éclairer la porte pour que la foule puisse voir l'époux apparaître. Notre mission, ce n'est pas de s'éclairer. Il fallait que la foule qui était présente puissent voir l'époux. Et le rôle des jeunes filles avec leurs lampes était là. Il faut qu'elles brûlent, et suffisamment pour que, quand l'époux va arriver, la foule puisse le voir venir. Je peux me contenter du peu pour ma vie. C'est ma mesure. Mais je peux dire aussi, Seigneur, que ta vie éclaire l'époux qui doit venir. Parce que si ma mesure est petite, alors je pourrais éclairer mes expériences. Vous savez, ça fait 37 ans que je connais le Seigneur. Oui, vous avez la médaille des anciens combattants spirituels. Mais la question aujourd'hui, est-ce que dans ta vie, ceux qui t'entourent voient Christ et les sentiments, j'ai soif de ta présence. Et je veux que ta présence soit comme un rayonnement pour ceux qui m'entourent. Seigneur, j'ai le fardeau pour les âmes. Et comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, donne-moi un fardeau et donne-moi des larmes pour Toulouse. Donne-moi un fardeau et des larmes pour ma famille et ceux qui m'entourent. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Amen.